n'est pas hétérosexuel. On le devient pas toujours.
La déprave.
Une émission transpédéguine et féministe.
Yeah, une femme transpédéguine.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité pénitée, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcat capitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Because there's no limit.
Une émission transpédéguine et féministe.
Think they're marvelous people.
Mais c'est de nous.
Ça ouvre l'esprit.
Michel Gobert, mixing the music.
Mon Dieu, vos normes sont trop étroites pour nos réalités.
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 Rêve de princesse, vie de cauchemar.
Une émission transpédéguine et féministe.
New Modern Blondie. Because there's no limit.
La déprave. La déprave, la déprave, la déprave, la déprave.
I think she looks great.
La déprave, la déprave.
I think they're marvelous people.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre intégration, c'est la désintégration de nos passions. Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous ont constamment réprimés. Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas. Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas. Nos corps ne se commercialisent pas.
Sauf si c'est notre
choix.
Nous
ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables.
Une émission transpédéguine.
Enfin, surtout transpédéguine.
Bonjour, bienvenue sur dans l'émission de La Déprave.
Salut tout le monde.
Donc aujourd'hui, en fait, le focus de l'émission après les infos, ça sera autour de l'histoire des luttes LGBT, parce qu'on est au mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois des fiertés LGBTI. Et du coup, on va avoir différents reportages autour notamment de l'histoire aux États-Unis LGBT.
Ok, bah on verra ça après. On va passer aux infos. Alors, une première info parisienne, bon, pas parisienne, mais une info qui concerne les sœurs de la perpétuelle indulgence. Alors, une subvention a été accordée aux sœurs de la perpétuelle indulgence en vue de réaliser un documentaire sur leurs activités de prévention. Donc, une association d'extrême droite, La Griffe, a porté plainte contre l'association, car, dixit, les sœurs sont une association de pitoyables carnaval exhibitionnistes qui se promènent dans les gay prides, généralement habillées par devant et dénudées par derrière, et agissent pour une banalisation des mœurs qui sont dans affaires mais qui ne vont pas à l'encontre du développement de cette maladie. Donc cette maladie, c'est quoi? C'est l'homosexualité, en gros, hein. Donc voilà. Donc j'espère que cette plainte sera complètement déboutée, parce que c'est un peu affligeant quand même qu'une association de prévention se voit coller une plainte au cul, on peut le dire, pour ça. Voilà, voilà, une autre info.
Donc, à Montpellier, maintenant, ça fait l'actu depuis le début de la semaine. Du coup, en fait, c'est Clarisse qui avait été licenciée par son employeur suite à ce qu'elle les ait informé qu'elle allait changer de sexe. Et du coup, bien sûr, quelques semaines après, elle s'est vue virée pour motif de manquement professionnel. Alors, on ne sait pas quel manquement, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'était en 2006, et cette semaine, elle a finalement gagné son procès en cour d'appel. Du coup, elle s'est vachement accrochée pour réussir à faire que ça soit reconnu qu'elle était discriminée à cause de son changement de genre. Et du coup, c'est une première en France. C'est pour ça qu'on donne cette info aujourd'hui. Et pour rappeler, elle avait saisi la ALDE, qui avait statué que toute discrimination fondée sur le transsexualisme d'une personne équivaut à une discrimination fondée sur le sexe. Et il faut rappeler que la transphobie ne figure pas dans les listes de discrimination reconnues par la ALDE actuellement.
Actuellement, on espère que peut-être un jour, bientôt, ça apparaîtra sur les listes. Une autre info concernant Orelsan, le rappeur Orelsan, dont on avait parlé un petit peu dans des précédentes émissions. Donc la mairie.
Vous savez, celui qui est ultra homophobe, ultra sexiste et tout ça.
Oui, voilà celui-là. Ce petit loulou-là. La mairie de Paris a retiré de ses bibliothèques l'album du rappeur Orelsan. Donc, elle a retiré de ses 60 bibliothèques le prêt du disque du chanteur-rappeur Orelsan perdu d'avance, dont les textes insultent les homos et glorifient la violence faite aux femmes, selon un communiqué de Christophe Girard, l'adjoint chargé de la culture. Donc, la mairie de Paris a en effet décidé de ne pas donner accès à ce disque au sein de son réseau de bibliothèques, explique-t-il. Si nous sommes attachés à la liberté de la musique artistique ou la liberté artistique, il est indispensable d'éviter qu'un public mineur ou non averti soit confronté à l'écoute de morceaux de musique dont les textes insultent les homosexuels et glorifient la violence faite aux femmes. Pour Christophe Girard, la création la plus osée et la plus insolente, oui, mais pas la haine et la vulgarité. On ne peut dépenser l'argent public pour faire la promotion de textes haineux, ajoute l'adjoint PS à la culture. Donc nous, on se demandait un peu, mineurs, pourquoi pas les majeurs et non avertis, ça veut dire quoi en fait?
Ouais,
moi, j'avais pas trop compris. C'est-à-dire, si t'es pas assez éduqué, tu penses que c'est vrai tout ce qu'il dit. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu bizarre comme communiqué de presse, mais bon, c'est déjà ça, je sais pas. Une autre info.
Toi, t'as une autre info par rapport à Ça recommence ?
Ah oui, c'est vrai que j'y avais ce truc-là, c'est que où il y a à Lyon, on peut rappeler que le 23 mai, il y a le chanteur donc Orelsan qui devait passer et il y a eu un petit rassemblement des nanas du planning familial qui étaient allées pour distribuer des tracts et protester contre sa venue et pour au moins, j'espère qu'il ne chante pas ses chansons les plus hardcore envers les femmes. Voilà. Et il y a d'autres actions qui doivent être prévues, je pense, dans l'année.
Et alors là, maintenant, c'est sur le président des États-Unis. C'est sur Obama. Alors, c'est la première fois qu'un président américain a déclaré le mois de juin comme mois des fiertés LGBT. Et du coup, il revient sur l'histoire. Du coup, quand même, on voulait le préciser parce que quand même, c'est quand même un événement, même si ça va pas changer nos quotidiens, c'est quand même quelque chose, une petite avancée. Il a déclaré quand même que, du coup, par rapport à l'histoire, les patrons et les clients du Stonewall à Newark ont résisté aux forces de police. C'est l'acte fondateur du mouvement des droits des LGBT. Durant le mois des fiertés gays, nous célébrons les événements de juin 1969. Du coup, c'est quand même pas mal qu'il ait dit ça. Et il a aussi déclaré « Je rejoins l'ONU dans la dépénalisation de l'homosexualité et continue de supporter les mesures en faveur de la légalité des droits pour les LGBT ». Et notamment ce qui inclut les unions civiles, la lutte contre la discrimination au travail, la réponse au droit à l'adoption et la fin du « don't ask, don't tell ». Et du coup, ça c'est quand même une grande chose que cette loi, on puisse imaginer qu'elle n'y soit plus. Et Hillary Clinton a aussi déclaré, s'est déclaré aussi en faveur, du coup, ça fait plutôt plaisir. Pour rejoindre en fait cette info-là, il y a aux États-Unis encore, le New Hampshire est devenu mercredi le 6e État américain à légaliser le mariage homosexuel. Donc voilà, après c'est pareil, c'est des avancées on va dire plutôt historiques, même si nous, on n'est pas forcément pour le mariage ou pour cette institution-là, en tout cas. Et du coup, je peux rappeler les 5 autres États américains qui ont légalisé 50, hein. le mariage. Du coup, c'est le Connecticut, le Massachusetts, Vermont, Maine et New Hampshire et Iowa.
Voilà.
Du coup, voilà. Et du coup, ça fait très très bien le lien avec notre thématique du jour. Puisque là, on va écouter Louis Georgetin, qui est venu à Lyon en mars. Alors, quand est-ce que c'était ? C'était pour la sortie du film Harvey Milk. Et du coup, je sais plus, on s'en fout de la date, c'était un vendredi soir. Et du coup, il y avait la projection du film Harvey Milk de Gus Van Sant, dont on avait parlé. Et ensuite, il y avait... Louis Georgetin, qui est d'ailleurs le fondateur de l'IDAO, la journée contre l'homophobie, qui est intervenu après pour parler de la lutte aux États-Unis et la lutte historique, donc les vagues d'homophobie et les réactions que ça a suscité. Et du coup, là, pendant un quart d'heure, on va l'entendre parler autour de ça. Eh bien, bonne écoute.
Merci beaucoup. Je vais essayer de proposer quelques éléments de contexte par rapport à ce que vous avez vu. Alors, ce qui est vraiment frappant dans ce film et dans l'histoire de Harvey Milk, c'est vraiment la politisation de la question homosexuelle. Ce qui nous paraît relativement banal aujourd'hui, ce qui ne l'est pas à cette époque, et on peut dire que c'est vraiment à partir de la Seconde Guerre mondiale ou après la Seconde Guerre mondiale que l'homosexualité devient un enjeu politique et d'abord aux États-Unis. Alors, de ce point de vue, il y a deux vagues d'homophobie qui politisent la question, justement. Alors, la première vague, elle est liée, à vrai dire, à la guerre froide, à partir de 1947. Et l'homosexualité est liée à des enjeux politiques et géopolitiques, puisqu'il s'agit justement de la guerre froide. Alors, c'est le président Truman qui lance un peu les hostilités en suggérant qu'il y a sans doute dans les fonctionnaires fédéraux des gens dont il faut vérifier la loyauté, c'est le mot, loyauté à l'égard de l'État. Ils ne sont peut-être pas loyaux, justement, parce qu'ils sont peut-être communistes, ils sont peut-être traîtres, et dans cette rivalité entre l'Union soviétique et États-Unis, il est opportun de faire un peu le ménage. Alors, on connaît très bien ce courant, qui a été évidemment exalté par le macartisme, et on sait que la chasse aux sorcières aux communistes a été un élément fort. On sait beaucoup moins que la chasse aux homosexuels a été aussi importante, sinon plus, que la chasse aux communistes. Alors, il y a de ce point de vue le discours de Wheeling, par exemple, de McCarthy, qui est le grand discours où il dit, voilà, nous sommes cernés, il faut faire très attention, il faut faire le ménage. Et c'est le FBI qui va se charger d'organiser tout cela, justement, de mener des enquêtes, de faire en sorte qu'on écarte les personnes à risque, qui sont en danger. Alors, Eisenhower, en 1952, va faire voter, par exemple, une loi sur l'immigration qui ferme les frontières des États-Unis à tous les déviants sexuels. Déviants sexuels, ça veut dire ce que ça veut dire. Également, on va exclure des emplois fédéraux toutes les personnes homosexuelles, parce qu'il y a un enjeu de sécurité d'État. Donc voilà pourquoi toutes ces mesures sont prises. Et en effet, il va, par exemple, le sous-secrétaire d'État, John Perry Fox, va annoncer, dès 1947, que des homosexuels nombreux ont quitté le navire, ont renoncé, si vous voulez, justement, à garder leur position au sein de l'armée, d'une part, au sein des fonctionnaires fédéraux. Donc il y a une chasse aux homosexuels qui s'organise. Alors pourquoi ces chasses aux sorcières ? Mais justement, parce que l'idée, c'est que les déviants sexuels, ce n'est pas un problème moral spécifiquement. Alors oui, bien sûr, en partie, mais c'est beaucoup plus un problème de sécurité d'État. L'idée, c'est que les homosexuels sont souvent communistes. L'idée, c'est aussi que les homosexuels sont des gens cosmopolites, ce qui n'est pas faux, en effet, ils voyagent beaucoup. Donc, s'ils viennent d'autres pays, de l'Allemagne ou de la Russie, bien, évidemment, ça peut être un enjeu pour nous, un sujet d'inquiétude. C'est aussi l'idée que ce sont des gens facilement accessibles au chantage, et pour cause. Il suffit de révéler leur identité et leur vie est ruinée. Donc, ils peuvent livrer des secrets militaires assez facilement. Donc évidemment, on se fonde sur l'homophobie sociale pour justifier la mesure homophobe. C'est-à-dire qu'on dit, comme on sait qu'on peut faire pression sur eux à cause de l'homophobie, donc ils peuvent livrer des secrets pour qu'on ne dévoile pas leur homosexualité, c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures homophobes, parce qu'ils sont sujets à l'homophobie. Donc voilà un petit peu tout ce raisonnement qui se met en place. Alors, le plus paradoxal dans cette histoire, c'est que cette politique a été mise en place par un certain nombre de personnes qui étaient elles-mêmes homosexuelles. Alors ça, c'est l'enjeu des années, vous voyez, à partir de 47, 50 et jusqu'au début des années 60. Ça continue quand même un peu après, mais véritablement, à partir des années 70, c'est un autre moment, une autre vague d'homophobie qui se met en place. Ça ne veut pas dire que la première n'existe plus, mais ça veut dire que la formulation de la deuxième vague est assez différente. La question de l'homosexualité est certes politique, mais elle n'est plus tellement géopolitique, elle est plutôt morale. Ça veut dire qu'en fait, on commence à politiser l'aspect immoral, entre guillemets, des homosexuels. Alors, ça a l'air tout à fait banal, ça ne l'est pas, justement, à cette époque-là. Parce que l'immoralité vraie ou supposée des homosexuels n'était pas un enjeu politique. Ça le devient précisément dans le cadre de ce qu'on appelle aux États-Unis la moral majority, donc la majorité morale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la jonction entre le conservatisme républicain, d'une part, et le conservatisme religieux, d'autre part. Alors, il semble assez naturel que ces deux mouvements fassent alliance. Eh bien, ce n'est pas si naturel que ça, et ce n'était pas le cas, justement, avant les années 70. C'est-à-dire que les mouvements religieux n'engageaient pas spécialement leurs fidèles à prendre parti politiquement, et quand ils le faisaient, ce n'était pas forcément pour les républicains. Or, justement, ce qui se passe, c'est cette coalition qui nous est si familière aujourd'hui et qui est tout à fait nouvelle à l'époque, entre les républicains et les religieux. Et cela va se faire autour de certains nombres de questions, l'homosexualité, justement, l'avortement, la question des femmes célibataires et des filles mères ou des femmes qui ont des enfants mais qui ne sont pas mariées, donc le mariage, si vous voulez, la question de la peine de mort, la question des armes à feu, donc un petit groupe de questions qui sont très connotées et qui vont constituer le socle et la plateforme de cette majorité morale qui va aboutir à l'élection de Reagan en 79, à l'élection de Bush, père, fils et peut-être d'autres, bientôt, je ne sais pas, cet esprit, je ne sais pas. En tout cas, c'est cette majorité morale que nous connaissons aujourd'hui et qui se constitue à cette époque-là. Alors, le coup d'envoi est lancé par, justement, Anita Bryan, que l'on voit dans le film. Et elle va user, effectivement, de sa notoriété pour contester une initiative lancée par Carter, le président Jimmy Carter, qui va essayer de favoriser des mesures visant à lutter contre les sodomy laws, donc les lois qui condamnent la sodomie, notamment la sodomie homosexuelle. En fait, elles ne sont jamais utilisées contre la sodomie hétérosexuelle, parce que les sexuels de sodomite, paraît-il. Mais ce n'est pas eux qui sont concernés véritablement par la loi. Donc Jimmy Carter va essayer de faire avancer les choses en proposant, en favorisant en tout cas des mesures qui permettent de lutter contre les sodomy laws et contre les lois discriminatoires en général. Et justement, Anita Bryant va essayer de s'opposer à cela, d'abord en Floride, parce que c'est là qu'elle se trouve, et ensuite dans d'autres régions du pays, dans d'autres États. Donc là, elle va effectivement marquer des points. Et elle va, si vous voulez, traverser véritablement les États-Unis, donc de la Floride. Elle va étendre son combat dans les plaines au centre du pays, mais ça, c'est pas difficile, c'est un milieu plutôt favorable. Et elle arrive en Californie, où la bataille est effectivement beaucoup plus difficile. Alors, beaucoup plus difficile, parce qu'effectivement, il y a des traditions assez différentes en Californie, je reviendrai tout à l'heure, et il y a une communauté gay qui existe, j'en parlerai, je dirai quelques mots. Alors, elle trouve un soutien auprès de Briggs, ce sénateur, justement, mais elle a fort à faire parce qu'au sein des républicains, il y a des gens qui s'opposent. Il y a Reagan, il y a Ford, Carter lui-même, donc parmi les républicains, mais aussi parmi les démocrates, il y a donc des gens qui s'opposent à cette Briggs Initiative, donc l'initiative du sénateur Briggs, qui échoue. Donc, cette campagne est assez vigoureuse. Elle aboutit même à un meurtre homophobe en Floride. Donc c'est un moment extrêmement fort, en fait, de l'histoire des homosexuels aux États-Unis. Mais finalement, cette campagne échoue. Le but était principalement, vous l'avez vu dans le film, de faire en sorte que les enseignants ne puissent pas avoir accès, les enseignants homosexuels, ne puissent pas avoir accès aux postes dans les écoles. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas exactement le même enjeu que dans la décennie précédente. Dans la décennie précédente, il s'agit d'exclure les homosexuels ou les transsexuels des emplois fédéraux, parce que c'est un enjeu géopolitique. Là, il faut les exclure des écoles parce que c'est une question morale, étant entendu que les homosexuels, c'est comme les pédérastes, les pédophiles, c'est une seule chose et ils sont un danger pour les enfants. Donc, vous voyez, on voit bien la différence de focus, la différence d'objet, et c'est pas la même homophobie qui s'exprime dans ces années 70 que celle qui s'est exprimée dans les années 50. C'est véritablement une problématique morale qui s'exprime à cette occasion-là. Maintenant, parlons peut-être justement de la réaction des associations LGBT. C'est le dernier point, j'en aurai fini bientôt. Les gens ne se laissent pas faire. Alors, dès les années 50, il y a des organisations gays et lesbiennes qui s'organisent, notamment la Matachine Society et aussi les Daughters of Bilitis, les filles de Bilitis, qui au début sont assez, assez proches de la gauche, et qui vont être obligés, dans le contexte du macartisme, de modérer un peu leurs propos, et même pour certains de coopérer dans certaines mesures avec les autorités, la police locale, voire le FBI, notamment pour lutter contre la drague dans les lieux publics. Donc on se croit obligé, et on est peut-être obligé, d'adopter une attitude morale, justement, parce que c'est un peu délicat, le contexte est extrêmement tendu. Alors, évidemment, les choses évoluent, et tout le monde connaît ici 69 Stonewall, donc événement phare. Stonewall, c'est un bar, Stonewall Inn, qui est un bar homosexuel, notamment fréquenté par beaucoup de trans, de drag queens, de drag kings, et qui était un lieu très symbolique à New York, parce que la police n'osait pas y aller. Ça appartenait vaguement à la mafia, on ne sait pas trop. Donc la police ne voulait pas trop se risquer. Et du coup, c'était un lieu de liberté, parce qu'on pouvait, par exemple, danser entre hommes ou entre femmes, ce qui était interdit ailleurs. Donc, on s'y retrouve, et ce jour-là, la police décide de faire une descente, comme elle le faisait souvent, comme on le voit au début du film par exemple. La police fait sa descente, sauf que ça se passe mal pour la police ce jour-là, c'est-à-dire que les trans vraiment décident de sortir et de tabasser les policiers à coups de sac, à coups de talons aiguilles, ce qui fait très mal. Et donc, il y a des émeutes, vous voyez. Donc je ne reviens pas sur cet épisode qui est quand même archi connu. Et au fond, ce qu'on voit dans les années 70, évidemment, c'est cette continuation d'émeutes qui s'organisent. Alors ce qui est vraiment frappant, c'est que justement, ça s'organise. Ce sont pas... Stonewall, c'est un peu spontané, comme ça, c'est un ras-le-bol. Mais en réalité, après les années 70, justement, il y a une communauté gay qui s'organise. Elle s'organise politiquement. Politiquement, on voit Harvey Milk qui dit « Nous avons besoin de leaders, comme le mouvement Black, par exemple. Ils ont des leaders, nous n'en avons pas. Donc nous devons faire la même chose. » Et on doit trouver des leaders. Des leaders qui soient autonomes et qui n'aient pas peur, sur qui on ne puisse pas exercer de pression. Donc, il faut qu'ils aient fait leur coming out. Alors, on voit cette scène d'injonction au coming out, qui est très intéressante, qui est frappante, de toute façon. Il faut qu'on soit une arme économique. Donc, l'arme du boycott est utilisée. Elle est utilisée, on ne le voit pas dans le film, mais elle est utilisée contre Anita Bryant, qui faisait des pubs pour une marque de citron, la marque Citrus, en Floride. Et bien, on va boycotter cette marque. Donc, l'arme économique est utilisée. L'arme politique, je l'ai dit. L'arme communautaire au sens strict du terme. Aux États-Unis, il y a des communautés, il y a même des leaders qui sont payés pour ça, qui sont à mi-chemin entre des leaders charismatiques et des travailleurs sociaux, qui sont payés pour organiser la communauté. C'est ce que Harvey Milk fait, mais il n'est pas payé pour ça. Ça veut dire qu'ils doivent avoir une discipline, ils doivent avoir le haut-parleur, ils doivent avoir un certain nombre d'instruments, des plaquettes, les affiches qui sont déjà toutes prêtes pour quelques manifestations qu'on fasse. C'est-à-dire qu'à tout moment, on a déjà tout ce qu'il faut pour lancer la manifestation. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement caractéristique aussi des États-Unis. Et ce mode de fonctionnement va être exporté en partie dans notre pays, souvent contesté, notamment en France, avec effectivement la rhétorique anticommunautaire. Bon, je n'entre pas dans ce débat, mais il est intéressant de constater qu'il y a des modes d'organisation et de réaction qui sont extrêmement différents. Alors voilà un petit peu comment on peut analyser la réaction des mouvements LGBT à l'homophobie, à la transphobie aussi ambiante dans cette Amérique-là. Alors pour conclure, arrivons peut-être à l'époque contemporaine, il va de soi que le combat majoritaire aux États-Unis, c'est aujourd'hui la question des couples et la question de la parenté, des familles LGBT. C'est aussi le débat en Europe. Alors ce qui me frappe, c'est qu'au début des années 90, il était clair pour tout le monde que ce débat avait beaucoup plus d'avenir aux États-Unis qu'en Europe. Il y avait déjà effectivement des choses qui avançaient plutôt pas mal à Hawaï le débat semblait relativement avancé outre-Atlantique. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a dans la moitié des pays d'Europe des statuts pour les couples de même sexe, parfois discriminatoires, souvent discriminatoires, c'est pas l'égalité des droits, mais une reconnaissance tout de même par l'État des couples de même sexe. Aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans plus de la moitié des États, il y a au contraire une interdiction fédérale concernant le mariage des couples de même sexe. Donc vous voyez, les choses ont évolué à front renversé et à l'encontre de ce qu'on imaginait ou de ce à quoi on s'attendait. Ça veut dire justement que l'histoire n'est jamais écrite à l'avance, ça c'est sûr. Et ce qui est frappant, c'est que précisément, le combat aux États-Unis a été mené contre le mariage des couples de même sexe, a été mené avec beaucoup de finesse et de subtilité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Autrefois, quand on s'opposait il y a 20 ans, quand on s'opposait au mariage des couples de même sexe, on évoquait en général Adam et Ève et Sodome et Gomorre. C'est-à-dire pour se fonder sur une rhétorique religieuse, évidemment. Et cela pouvait être contesté plus ou moins facilement par les militants LGBT ou pour les droits civiques, en disant, mais non, mais ça c'est du bigotry, mot qu'on entend souvent, donc vous êtes des bigots, donc ce n'est pas adéquat, nous luttons pour les droits civiques. Or, depuis 10 ans, on ne s'en est pas aperçu, mais la rhétorique de ceux qui luttent contre le mariage des couples de même sexe n'est plus du tout la même. Elle ne porte plus sur l'homosexualité, mais elle porte sur l'hétérosexualité. Je veux dire par là qu'au fond, ce que disent les opposants au mariage homo, au gay marriage, ils disent le mariage, c'est un homme et une femme, point. Alors il y en a d'autres qui continuent dans le discours homophobe, mais beaucoup, et les plus subtils et les plus efficaces, disent juste le mariage, c'est un homme et une femme. Propos qui semble tout à fait naturel et qui a beaucoup plus de chances de passer dans l'opinion publique que si on disait il faut exclure les homosexuels du mariage parce que Sodome et Gomorre et etc. Voyez. Donc quand on fait un sondage, on dit aux gens est-ce que vous pensez qu'il faut exclure les homosexuels ? J'en dis oh bon, pourquoi ? Si vous dites que vous pensez que le mariage c'est un homme et une femme, bah oui bien sûr. Donc c'est le même résultat. Du point de vue politique, mais du point de vue des réponses, ça change tout. Et c'est effectivement ce qui s'est joué, c'est-à-dire qu'il y a des amendements constitutionnels qui sont passés dans une trentaine d'États, on a parlé de la Californie, la proposition 8 récemment, mais ce n'est que l'un des 30 États concernés, et précisément parce que aujourd'hui la campagne porte en partie, non pas contre les homosexuels, mais pour les hétérosexuels.
Et voilà, c'était Louis-Georges Thin pour cette conférence. Du coup, on s'est laissé porter dans cette histoire passionnante, qui racontait de manière passionnante. Du coup, on peut s'écouter une petite chanson, peut-être. Donc, ça va être New Bloods, qui est un groupe de féministes noires américaines. Et la chanson, elle s'appelle Eyes.
Close your eyes, look inside, look inside. Try to surrender to the night.
une petite chanson pêchue, ça fait du bien.
Ouais, de la pêche. Est-ce qu'on continue avec le deuxième montage alors?
Ouais, c'est ça. Alors en fait, au cours de cette soirée-là, ensuite, après cette petite intervention de Louis-Georges Tin sur, sur les États-Unis et la lutte aux États-Unis, et il y a eu un débat ouvert, réaction sur le film, réaction sur comment on lutte maintenant. Du coup, il y avait des personnes, c'était une immense salle, faut dire, aux comédiens. Du coup, il y avait quand même, je pense, moi je suis nulle en nombre, mais on était bien 200. Du coup, c'était... C'était pas mal, voilà. Et du coup, là, on va entendre du coup un deuxième montage où on entend surtout Tin qui répond à des questions et qui parle plus de la politique actuelle en France et des manières de lutter maintenant.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que en France, par exemple, parlons plus de la France maintenant, ce souci ne date pas d'hier. En gros, le problème pour beaucoup de personnes, si vous voulez, c'est la reproduction des stériles. Comment se fait-il que les homosexuels, qui sont censés être stériles, se reproduisent, puisqu'on en voit de plus en plus, donc un miracle ou un problème, ça dépend comment on voit les choses, et on se dit, dès la fin du 19e siècle, un peu avant, mais ça devient vraiment massif à la fin du 19e, c'est clair, ils recrutent, et notamment à l'école, qui est évidemment un vivier extraordinaire pour eux. Donc il faut avoir une politique particulièrement forte à cet égard. C'est d'ailleurs pourquoi, à cette époque, émergent aussi les premiers discours favorables à la mixité scolaire, la mixité filles-garçons. L'objectif de la mixité à l'époque n'est pas du tout l'égalité des sexes, ça, c'est pas l'enjeu du moment, loin de là. Alors, que cela ait été utilisé après, dans un cadre d'égalité des sexes, certainement. Mais c'est pas l'objectif de l'époque. L'objectif de l'époque, c'est précisément de lutter contre les amitiés particulières que favorise, dit-on, des enseignements ségrégés. Il y a des filles de garçons d'un côté et des garçons de l'autre. Ça crée des amitiés particulières, donc pour éviter cet inconvénient, eh bien, il faut les mettre ensemble. Donc vous voyez qu'il y a un véritable souci pour éviter l'homosexualité, celle des élèves, mais aussi celle des professeurs. Alors aujourd'hui, en effet, beaucoup d'associations militent pour qu'il y ait un changement de point de vue. Heureusement, il y a des choses qui se font de manière ponctuelle. Il y a des interventions au milieu scolaire faites par des associations. Il y a des enseignants et des enseignants méritants qui introduisent cela, et c'est légitime, dans leur enseignement. Ça reste encore extrêmement ponctuel. Il y a une circulaire à la rentrée dernière faite par le ministre de l'Éducation nationale, mais c'est pas tellement à ce niveau-là que ça se joue. Véritablement, les professeurs regardent très peu les circulaires, surtout celle de M. Barkov, je crois. En réalité, il faut plutôt voir les choses au niveau des programmes, donc de l'INRP. Donc c'est là, à mon avis, qu'il faut jouer. Il y a un levier important, et il y a un enjeu considérable, bien entendu.
Il y a des actions, mais comment on en tient compte et comment tous ensemble on fait bouger ça?
Oui, je dirais que d'un point de vue médiatique, les deux combats les plus visibles sont le mariage et la parentalité. Donc, combat que je soutiens pour ma part. Mais à mon avis, les deux combats les plus lourds, sont la lutte contre la transphobie et contre la stigmatisation des jeunes. Donc, tout ce qui, effectivement, débouche sur le malaise, la dépression, le suicide. Les enquêtes menées en France, il y en a peu, il y en a quand même, et à l'étranger, montrent qu'effectivement, le risque de suicide pour les jeunes non hétéros est entre 5 à 15 fois plus élevé que pour les autres. Donc c'est considérable, il faut en prendre la mesure. Et de ce point de vue, le problème, justement, n'est pas la discrimination, c'est la stigmatisation. Alors, je fais parenthèse conceptuelle, mais qui me paraît importante. En droit français, la discrimination, c'est refuser un bien, un service, un logement à quelqu'un, pour des raisons qui figurent parmi celles qui sont définies par la loi. Donc, l'orientation sexuelle, l'âge, le sexe, la religion, l'origine, etc. La stigmatisation, c'est un concept qui n'est pas juridique, c'est un concept sociologique, c'est le regard négatif que l'on porte sur quelqu'un, et ça peut se traduire éventuellement par des paroles ou des insultes. Pas forcément. Donc la stigmatisation, c'est quelque chose de plus fin, et c'est une façon de plus diffus. Donc, quand on parle de discrimination, on est déjà un petit peu à côté du problème quand je parle des jeunes. Les jeunes en question, qui sont candidats au suicide, ils ne sont pas discriminés, c'est quelque chose insu. On ne leur a pas refusé un emploi, un bien ou un service. Ils sont stigmatisés, c'est pas la même chose. En un sens, ils sont victimes d'homophobie, mais aussi victimes d'hétérosexisme. Voyez, l'hétérosexisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'illusion selon laquelle l'homme est fait pour la femme, et surtout la femme pour l'homme, bien sûr. C'est l'idée aussi que tout individu est, ou sera, et doit être hétérosexuel, soit accident, catastrophe ou malheur. Et c'est ça l'hétérosexisme. C'est pas exactement la même chose que l'homophobie. Et justement, quand on enquête, par exemple, sur des cas un peu ponctuels, ce qui est toujours difficile, la trajectoire d'une personne qui s'est suicidée, on n'en sait pas grand-chose. Mais très souvent, quand on a des éléments d'appréciation, on se rend compte que ce ne sont pas forcément des jeunes qui ont été victimes d'homophobie, harcelés à l'école ou tabassés. Parce que ceux-là, ils passent des années sans doute difficiles, mais ils ont peut-être, à travers l'opposition qui leur est faite, la ressource de s'opposer, justement. Alors que quand vous êtes entouré d'amour dans une famille où tout le monde présuppose que vous êtes hétérosexuel, eh bien, justement, c'est beaucoup plus difficile de se révolter parce que tout le monde vous aime, on a déjà tout organisé, on pense bien que vous serez marié bientôt avec quelqu'un de votre sexe. Et, c'est évident. Et ce sont justement souvent ces jeunes-là qui, pour ne pas décevoir leur entourage tellement aimant, sont portés à retourner la violence qu'ils ressentent contre eux-mêmes et non pas contre autrui. En gros, si mon père est un salopard homophobe, je peux toujours dire je me barre. Ça serait hyper difficile à 15 ou 16 ans, vous imaginez. Mais la haine ou la violence contre l'autre peut être un début de réponse sociale. En revanche, quand vous êtes entouré d'amour, vous ne savez pas comment vous sortir de cet amour qui vous étouffe de certaine façon. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on aboutit au suicide. Et souvent les parents disent, mais je ne comprends pas, je ne suis pas homophobe, et jamais je n'ai rien dit contre les homosexuels de cette famille, je ne comprends pas. Et souvent c'est vrai. Je ne suis pas sûr, mais je veux bien croire cela. Le problème, c'est qu'aucune parole n'a été dite contre les homosexuels, mais aucune parole n'a jamais été dite non plus pour les homosexuels. C'est un sujet invisible, impensable et donc invivable. Et voyez que c'est très différent de l'homophobie, celle qu'on imagine, les insultes adressées à quelqu'un qui se fait tabasser. Ça, évidemment, c'est grave. Mais le silence sur l'homosexualité est aussi grave et aussi mortifère. Vous voyez qu'on est obligé d'analyser des mécanismes sociologiques beaucoup plus subtils que la simple discrimination qui est déjà l'aide très lourde de conséquences. Ce qui veut dire que la prise en compte pour le professeur, la prise en compte doit être extrêmement fine et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas tellement. Parce qu'il n'y a pas que l'homophobie, il y a aussi l'hétérosexisme. L'hétérosexisme, c'est une réalité extrêmement complexe, extrêmement fine et extrêmement forte à la fois.
On a une autre question là-haut, je crois.
Oui, bonjour Gaëlle. Vous nous avez présenté tout à l'heure les arguments des bigots aux USA. Je voulais savoir, vous qui avez plus de recul et plus de connaissances du sujet, quels étaient les arguments actuellement développés par nos chers bigots français?
Alors, on voit du coup la différence d'arguments. L'argument géopolitique, par exemple, vous êtes des communistes et tout ça, n'a pas eu beaucoup de prise en France. Puisqu'après-guerre, les communistes bénéficiaient d'un prestige social et politique évident avec la résistance. Donc, ces arguments n'ont pas prise. Les arguments religieux traditionnels sont encore en vigueur, mais en général euphémisés, c'est-à-dire transposés. Par exemple, Christine Boutin n'a pratiquement jamais parlé de l'ordre divin pour justifier son refus du pacte. Elle a parlé... Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est la rhétorique. Alors, la Bible était le symbole, elle avait sa Bible à l'Assemblée, bien sûr, qu'elle a grandi, mais elle ne parle pas d'ordre divin, elle s'est fondée soit sur un ordre psychanalytique, soit sur un ordre anthropologique qui ressemble étrangement à l'ordre naturel de saint Thomas d'Aquin ou à l'ordre divin de la théologie pérenne. Donc, il y a une rhétorique extrêmement... amusante de ce point de vue, qui reprend en partie la psychanalyse, je le disais, ce qui est d'autant plus frappant que la psychanalyse n'était guère en odeur de sainteté avant les années 90. On jugeait ces thèses permissives et obscènes. On disait aux freudiens, vous voyez du sexe partout, c'est obscène, c'est immoral. À partir du moment où les psychanalystes ont été nombreux à s'opposer au Pax, de manière opportune, il y a eu une récupération de la théorie freudienne pour justifier l'opposition au pacte. On voyait qu'il y a une certaine circularité de la rhétorique homophobe et c'est quelque chose qui n'est pas stable. Donc, y compris les arguments religieux peuvent être... ils sont repris par d'autres et ils sont parfois servis sous une version un peu laïcisée. par des gens qui ne sont pas religieux. Et des religieux peuvent utiliser des arguments non religieux parfois pour effectivement faire valoir leur thèse en réalité religieuse.
Parce que dans l'argumentation de Christine Boutin, effectivement, il n'y a aucun contenu homophobe affiché. Au contraire, c'est, j'ai des amis homosexuels, je les respecte, il faut leur donner une place, il ne faut pas les discriminer. Mais par contre, il y a un discours normalisateur, quoi, c'est ça.
Alors il y a quand même des arguments homophobes stricts. Hein, quand on lit son livre, justement, je lis le titre, mais je l'avais lu, je l'ai même acheté. Il y a vraiment des arguments. Il y a vraiment. Oui, je sais, j'aurais dû le voler. Bon. Mais je ne veux pas me faire piéger non plus. Donc il y a vraiment des arguments homophobes de sens strict. Mais ce n'est pas justement cela qu'elle réserve à la télé ou aux médias. Donc dans son livre qui se destine aux happy few, aux vrais catholiques, si vous voulez, ou aux gens comme moi peut-être, donc là il y a des arguments massifs, et là elle cite volontiers Sodome et Gomorre. Quand elle passe à la télé, quand elle passe à la télé sur ces sujets à l'époque du pape, elle ne va pas utiliser cet argument-là. Parce qu'elle sait très bien que dans une république laïque, en tout cas officiellement, le discours religieux est contre-productif. Donc c'est pour ça qu'elle utilise une rhétorique autre, par exemple une rhétorique psychanalytique, je le disais, ça donne un côté new look à la rhétorique homophobe, la rhétorique homophobe a des habits neufs.
L'année passée, on a passé notre journée, les anciens militants gays, à parler des 40 ans de mai 68. Là, on est parti sur les 40 ans de Stonewall, puisque c'était en effet en 1969. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain et après-demain. Et pour justement pas finir cette soirée sur la nostalgie d'un monde, je ne sais pas s'il est encore en devenir. Voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain et après-demain? Voilà, question toute simple. Mais c'est des travaux pratiques.
C'est une question que ça reste à qui?
Tout le monde, à chacun d'entre nous, mais évidemment à Louis Georgetown, puisque comme il est à l'origine, mais je sais le combat qu'il mène au niveau notamment de l'ONU pour une journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et moi, je voudrais en effet qu'on se pose un peu cette remise en cause, chacun d'entre nous, dans notre confort maintenant, je dirais, de mot normé quelque part.
Je crois que d'abord, les choses que l'on peut faire peuvent être extrêmement utiles. Je vais donner un exemple. Il y a 3 ans, les associations LGBT dans plusieurs pays d'Amérique latine, au Brésil, en Argentine, au Costa Rica, etc., ont fait des actions contre le Nicaragua, qui était le dernier pays en Amérique centrale et latine, disons, à pénaliser l'homosexualité. Donc ils ont fait pendant 2 ans des manifestations conjointes, le même jour, la journée contre l'homophobie, devant les ambassades du Nicaragua. La pression extérieure conjuguée à la pression intérieure a fait que le Nicaragua a dépénalisé l'homosexualité. Ça veut dire que les actions que l'on fait chez soi peuvent avoir un impact sur les pays d'à côté. Ça veut dire que lorsqu'on entend des choses qui arrivent à l'étranger, lorsqu'on envoie des lettres, ça n'est pas grand-chose, ça demande 5 minutes. Mais une même lettre signée par plusieurs associations, des coups de fil, des fax envoyés aux ambassades, eh bien, brusquement, des gens qui sont à l'autre bout du monde se rendent compte qu'il y a une conscience internationale qui est favorisée par l'Internet et que ce qui se passe ici a des résonances là-bas et qu'on ne peut pas être un tyran sans que ça se sache. Bon, alors ça gêne beaucoup de gens, justement, et ça fait avancer les choses. Aujourd'hui, par exemple, au Burundi, il y avait une loi qui devait pénaliser l'homosexualité, ce n'était pas le cas jusqu'alors. Eh bien, il y a eu une pression, justement, internationale, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais le fait est que, justement, cette loi a été retirée. C'est pas encore fini, mais voyez, aujourd'hui, grâce à l'Internet, beaucoup de choses se font, et donc chacun peut être informé de ce qui se fait à l'autre bout du monde, et chacun peut agir sur ce qui se fait à l'autre bout du monde. Donc souvent des gens se disent, mais moi, qu'est-ce que je peux faire dans le petit coin où je suis? Mais le petit coin où je suis, il est relié au reste du monde. Donc, à travers les associations qui sont de plus en plus mobilisées sur l'international, beaucoup d'actions ont lieu, mais pas assez, mais on peut en faire encore beaucoup plus. Il y a une marge de progrès qui est considérable. Je pense que le mouvement LGBT français vraiment s'intéresse à l'international depuis assez peu de temps finalement. Donc il y a une marge de progrès très considérable, et c'est pour ça que nous avons souhaité que le gouvernement fasse des actions là-dessus. Nous avons été heureux de voir que Ramayad effectivement porte notre combat à l'ONU, mais le combat il doit se jouer à la fois au niveau international, à l'Assemblée générale, et il doit se jouer aussi au niveau national, bien entendu. Donc voilà un petit peu ce que je dis et ce qu'on peut faire.
Ces associations, elles fonctionnent avec des bénévoles qui travaillent par ailleurs, qui ont un temps limité et des fois pas forcément toutes les bonnes volontés pour le faire, mais elles sont là Et elles ont aussi besoin de relais institutionnels, c'est-à-dire qui sont les représentants, qui sont les élus, quels sont leurs messages, qu'est-ce qu'ils véhiculent et quels sont, voilà, quelle est la part de ce qu'ils savent pris du discours de ces associations.
Alors sur le rôle des associations, vous avez raison de le souligner, car souvent l'histoire se fait sans elles. Elle se fait par elles et elle s'écrit sans elles. Je veux dire par exemple que moi j'ai appris en classe que le droit de vote avait été donné par le général de Gaulle après la guerre. Bon, en fréquentant des associations féministes, j'ai entendu une autre histoire qui était plutôt les associations féministes se sont battues depuis la fin du 19e siècle et ont obtenu, voire arraché, le droit de vote après la libération. Enfin, avant, ça a pris effet après. C'est pas exactement la même chose. Or, c'est pas inintéressant de le dire comme ça. Parce qu'évidemment, il est très fréquent, par exemple, que des gens de la société, des filles, par exemple, disent « Ah ben moi, je ne suis pas féministe, je ne suis pas ringard, c'est un combat d'hier, et voilà, donc voilà. » Et moi, je réponds parfois « Ah, très bien, est-ce que tu es contre le droit de vote des femmes ? Ah ben non. Est-ce que tu es contre l'accès à la pilule ? Ah ben non. Est-ce que tu es contre l'égalité salariale homme-femme ? Ah ben non, surtout pas. Ça, c'est les combats qui ont été menés par qui ? Oui, c'est par des féministes, évidemment. Mais simplement, puisque l'histoire officielle est racontée sans dire le crédit qu'il faut porter aux associations, on peut croire que l'histoire a progressé sans les associations, que les associations sont par conséquent des objets inutiles, des empêcheurs de tourner en rond, des protestateurs et des râleurs professionnels qui sont payés à ne rien faire, ce n'est à râler. Donc, c'est très important, et c'est ce déficit d'histoire qui nuit beaucoup à la cause féministe, à la cause sociale, et c'est vrai pour toutes les associations. Donc, si les gens avaient conscience du rôle des associations, quelles qu'elles soient, dans les combats sociaux et les avancées sociales, ils n'auraient pas cette attitude de dédain, voire d'opposition, que l'on voit trop souvent. Et c'est vrai pour les syndicats, c'est vrai pour quantité de choses. Donc, lorsqu'on raconte l'histoire, il est important de dire qui a fait quoi.
Alors, je voudrais savoir si vous n'avez pas eu l'impression que le mouvement en fait, d'émancipation des gays s'est également accompagné d'un mouvement de radicalisation des opposants. Et on a rappelé l'épisode de la Bible dans l'Assemblée nationale, c'est évidemment des progrès, de voir le masque, etc., c'est des choses qu'on n'aurait pas vues il y a 50 ans. Mais dans le même temps, je ne suis pas sûr qu'on aurait vu également il y a 50 ans une personne brandir la Bible dans l'Assemblée et encore moins être nommée ministre après.
Vous dites... Les mouvements LGBT produisent, je ne sais pas si vous allez jusque-là, mais produisent des réactions homophobes. Je dis non, les réactions homophobes produisent le mouvement LGBT, ils sont combat. Alors évidemment, lorsque les gens défendent le combat, ils trouvent face à eux des gens qui sont opposés, ce qui est assez logique. Et quand Christine Boutin a sa Bible à l'Assemblée, qu'elle brandit, vous dites ça ne se voyait pas avant. Je dis parce que, alors je ne suis pas sûr, mais pourquoi pas, enfin, c'est possible, mais sans raison, mais je dis parce que la question ne se posait pas. Ça ne veut pas dire que les gens étaient moins homophobes il y a 30 ans, c'est que la question du mariage ou du pacte n'était pas posée. Mais rappelons-nous quand même l'amendement Mirguet, donc qui a été voté sous De Gaulle, et qui disait que l'homosexualité est un fléau social dont il faut se saisir, comme l'alcoolisme et Dieu sait quoi. Je ne dis pas, on ne disait pas Dieu sait quoi, mais voilà. Vous voyez que, évidemment, parfois, c'est pas, vous ne dites pas ça, mais parfois, on reproche aux associations au fond de sécréter l'homophobie qu'elles veulent combattre. Je crois que c'est un mauvais procès, puisqu'en réalité c'est l'homophobie qu'elles combattent, et c'est un peu l'argument des faits pervers. Si vous luttez contre l'homophobie, il y aura plus d'homophobie. En gros, c'est l'injonction à l'inertie. C'est-à-dire, il y a des gens qui seraient les apôtres du laisser-faire et de la débandade. Donc, surtout, ne faites rien, vous verrez, l'homophobie disparaîtra d'elle-même. Alors, l'expérience sociale prouve que les choses ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Donc, évidemment, c'est pas ce que vous dites. Je crois que, justement, il est important de combattre. Il est évident que, quand on pose le problème, on a des opposants, mais que, malgré tout, les problèmes n'existent pas lorsqu'on les pose, ils apparaissent. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Et je crois que le but des sciences sociales, par exemple, c'est de rendre visibles des réalités invisibles, et le but des militants, c'est de combattre des choses qui étaient tues. Et je pense qu'en matière de transphobie, notamment, en matière de stigmatisation homophobe, vraiment, nous sommes dans l'ordre du silence. Et c'est ce silence qu'il faut combattre, et c'est le début, je pense, d'une part de la vérité, et d'autre part du combat politique.
Voilà, vous avez été plongé pendant quelques minutes avec dans ce débat passionnant qu'il y avait eu lors de cette soirée. Je veux préciser quelques petits trucs. C'est que moi, ça m'a fait du bien cette soirée-là, où j'avais l'impression, alors que c'était une salle blindée, notamment de pas mal de gays bien intégrés, de que Louis Georgetin repolitise vraiment énormément de questions, et notamment tout ce truc-là dont il parle autour de l'homophobie, mais non... l'hétérosexisme, etc. Et donc ça m'a fait vraiment plaisir de l'entendre. Et puis aussi d'entendre que la lutte sur les transidentités est primordiale actuellement. Du coup, ça va nous permettre, là, pendant les minutes qui suivent, de parler un peu de ce qui se passe pour l'organisation de la marche des fiertés de cette année à Lyon. Et un peu des problématiques qui se posent à Lyon, justement autour de la transidentité.
Oui, il faut savoir que c'est vraiment pas facile ce qui se passe à Lyon en ce moment, et même assez inquiétant. Le mot d'ordre de la marche des fiertés de cette année, c'est, en tout cas à Lyon, c'est respectons la transidentité, refusons la transphobie. Et donc ce mot d'ordre a été accepté. Après maintes batailles dans l'inter LGBT lyonnaise, et donc il a été finalement accepté, mais maintenant il y a un système de boycott de la marche qui est en train de se mettre en place par divers commerces gays lesbiens lyonnais.
Ouais, dès qu'il y avait eu l'annonce, en fait, ouais. Ils avaient dit si c'est comme ça, on vient pas. Ils avaient cru pouvoir mettre pression, sauf que eux, ils mettaient pression sur un argument, on va dire, plus commercial. Les associations appelaient à un mot d'ordre politique, du coup, leur pression n'a pas marché. Et là, à partir du mois de juin, là, ils ont refait un peu un bon coup de pression. Et ce qu'il faut dire, c'est que il y a des personnes qui ont même été interdites de défiler, parce qu'ils ont notamment des patrons de bars, parce qu'ils ont fait des déclarations transphobes, quoi.
Mais tu les as, là, les déclarations,
par exemple. Je peux les retrouver.
Ouais, elles sont vraiment atroces.
Ouais, je sais même pas si ça vaut le coup de les lire, tellement c'est dur.
Moi, je me rappelle.
Du coup, ils ont notamment déclaré que la transphobie n'est pas une problématique suffisamment englobante. Donc, faudrait rappeler tous les chiffres qui font que les trans sont stigmatisés en France actuellement. Bref. Et alors, attends, j'arrive pas à retrouver. Alors, donc, les trans font uniquement dans la provocation. Ils ne font que montrer leur bite et leur foufoune. Donc ça, c'est quand même un mec influent qui a déclaré ça, parce qu'il est patron quand même de plusieurs bars, quoi. Du coup, c'est... Ouais. Vous voyez le niveau des discussions, quoi. Alors, heureusement qu'il y a quand même... justement des assos qui tiennent le truc, et notamment, on va dire, Chrysalide, qui là, sur cette année, et notamment les années dernières, mais commence à vraiment publiquement parler de la transidentité, parler, nommer la transphobie, et une brochure...
Taper du poing sur la table aussi.
Ouais, taper du poing sur la table. Là. Et du coup, peut-être il faut parler de cette brochure qui a été subventionnée. Ah, ouais. Pas mal. Et du coup, c'est une petite brochure qui revient vraiment sur plein d'éléments, et sur la transidentité et sur la transphobie. Et du coup, c'est une brochure gratuite qu'on peut trouver dans un peu n'importe quel lieu
LGBT,
asso LGBT, tout ça sur Lyon, et même, je pense, sur la région Rhône-Alpes.
Ouais, elle est bien, elle est vraiment très 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 bien, cette brochure.
Et du coup, l'avantage là de... Du coup, je trouve un des avantages de ces conneries là qui sont dites par ces gens-là, c'est que la marche de cette année, qui est redevient politique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que la marche de Lyon va être une marche politique. Du coup, ça vaut le coup que plein de gens viennent en tête de manif parce que ça va pas être une marche avec plein de, du coup si bien sûr il va y avoir des chars commerciaux derrière, ça va être la fête derrière, mais le devant de la manif va être une vraie manif avec des slogans, des banderoles et plein d'éléments comme ça pour justement politiser en termes sur les questions de la transphobie, mais aussi sur les questions de l'homosexualité, parce que même s'il y a tout un truc, un système d'intégration qui se fait, et on peut bien le voir avec les déclarations de ces gays mainstream, il y a encore beaucoup de choses qui montrent que c'est pas si évident que ça à l'heure actuelle, quoi.
Faut qu'on soit fort, faut qu'on soit forte. Et voilà, moi je vais juste vous lire un petit extrait d'un tract qu'on a un peu écrit ensemble parce qu'on a envie de marcher ensemble. Donc, repolitisons cette marche tous ensemble. Trans, PD, Gwyn, meuf, pute, voilée, racisée, psychiatrisée. Les minorisés dans la minorité doivent reprendre le pavé. Pour une marche féministe non excluante, pour une marche politique anticapitaliste où nous crierons plus fort que les chars commerciaux, pour une marche qui aura du sens, pour une marche qui laissera la parole à celles et ceux qui ne l'ont jamais, pour une marche qui n'oublie pas son passé, pour une marche révolutionnaire.
Waouh! Alors on aurait vraiment discuté encore super longtemps autour de ça.
C'est toujours la même chose.
Et c'est toujours la même chose. Ouais. Il nous manque au moins une demi-heure dans notre émission parce que voilà. Et du coup, comme là, il nous reste 4 minutes, est-ce qu'on passe à l'agenda tout de suite?
Je crois qu'on va faire
et ça. Et puis après, on vous passera une chanson sublime pour conclure l'émission. Donc l'agenda, moi je peux commencer. Je commence et j'annonce. Semaine des fiertés, je me dépêche, à Strasbourg. Ouais. Semaine des visibilités LGBTI. Du coup, nos camarades là-bas font vraiment plein de choses, notamment mardi 9 juin, discussion histoire autour des lesbiennes, mercredi 10 autour du queer, jeudi 11 le film Bleu, Blanc, Rose si vous ne l'avez pas encore vu, vendredi 12 questions trans et bien d'autres soirées encore, c'est sur 10 jours et vous trouvez le programme sur l'Estras Agenda, donc c'est lezstrasagenda.over-blog.com.
Alors sinon à Paris, il y a le festival Identité. C'est un festival international de films trans, donc de Paris, et c'est du jeudi 11 au dimanche 14 juin au cinéma L'Archipel. La thématique cette année, c'est Trans 40 ans de lutte. C'est la deuxième ou troisième édition. Vous pouvez trouver plus d'infos sur le www.festivalidentite.org. Voilà.
Oui, le documentaire, là.
Il y avait la sortie du documentaire Sortir du Nkuta de... En fait, j'ai pas les...
Et du coup, c'est un... Alors, on sait pas trop parce qu'on l'a pas vu, mais on a vu cette info. Ça veut dire sortir du placard. Ouais. Et c'est une interview d'homosexuels au Cameroun. Du coup, on s'est dit, Gwyn et des PD, alors on s'est dit que peut-être c'était intéressant. Ouais. Et ils passent sur une chaîne câblée.
France O.
Voilà. Voilà. Et pour finir, on rappelle que le 6 juin, c'est-à-dire demain, il y a les Lesbian and Gay Pride à Montpellier, Lille, Tours.
Et Nancy.
Et voilà. Et du coup, on espère que ça sera un peu plus politique que...
Que les années précédentes.
Voilà, en tout cas à Lyon, on ne sait pas les autres villes, quoi.
Bon, si à Lyon, ça va être politique, on y sera et vous serez derrière nous, avec nous.
Donc, à dans deux semaines, et là, on vous laisse avec Candy Kane et avec une chanson qui dit The Lord was a woman.
A woman.
Ciao.
Bye.
Like a man. She cooked the last supper, she put it on the plate. She told the 12 disciples, eat your food for heaven's sake, 'cause the Lord was a woman.
The Lord was a woman.
The Lord, she was a woman. The Lord was a woman, but she dressed up like a man.
The Lord was a woman,
but she dressed up like a man.